1079.
Bienvenue sur Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 22 septembre. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'allègement du pass sanitaire souhaité par le chef de l'État est en discussion ce matin au Conseil de défense. Mais comment faire ? On va voir les pistes dans un instant avec vous, Anaïs, après les autres titres.
11 milliards d'euros au moins de nouvelles dépenses pour le dernier budget du quinquennat. Le président fait campagne avec le chéquier de la France, accuse la droite. Dans ce journal aussi, le récit d'un policier arrivé le premier dans la salle du Bataclan le soir du 13 novembre. Dernier jour de campagne en Allemagne et une maison de la performance pour hisser la France dans le top 5 au JO de Paris.
Et nos invités ce matin à 7h50, Léa.
Une voix singulière de la littérature. Elle promène ses obsessions, l'identité, le désir, le genre dans son très beau nouveau roman, Satisfaction, sur la liste de plusieurs prix. Nina Bouraoui sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouve, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le président du parti Les Républicains, Christian Jacob. Lui aussi publie un livre, J'en ai tellement vu, ce que j'ai appris au pouvoir. C'est chez Robert Laffont en librairie demain. Le Standard est ouvert et vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter.
Conseil de défense restreint tout à l'heure à 9h avec au menu le pass sanitaire. Stop ou encore, ou plutôt stop et encore. Emmanuel Macron souhaite lâcher du lest dans les territoires où le virus circule moins, mais sans relâcher la vigilance. Simon Le Baron.
Emmanuel Macron le sait, un allègement des contraintes sera forcément populaire. Il suffit d'écouter le candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel.
Maintenant que nous avons passé le cap des 50 millions de Français vaccinés, il serait bon de pouvoir alléger ce dispositif.
Ou le député Les Républicains, Philippe Gosselin.
La Normandie, par exemple, est verte aujourd'hui. Pourquoi garder les mêmes contraintes que dans d'autres départements ou régions où c'est rouge ?
C'est avant tout un signal politique que veut envoyer le président, montrer qu'il ne se satisfait pas de ces atteintes aux libertés. La question est de savoir comment le prouver, en supprimant le pass dans les départements où le taux d'incidence a chuté sous les 50, en fixant un calendrier, une date à laquelle le pass serait levé dans tout le pays, en permettant aux enfants du primaire de tomber le masque. Le débat agite le gouvernement. Mais attention à l'euphorie, alerte certains, au sein de l'exécutif, mais aussi en dehors, comme le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde.
Est-ce que ça veut dire que dans des départements où les taux d'incidence sont faibles, on va demander aux gens de ne plus se faire vacciner ? J'ai pas très bien compris ce que veut faire le gouvernement.
D'où ce en même temps sanitaire envisagé à l'Élysée, commencer à lever les restrictions, mais garder toujours sous la main le pass, au cas où. Pour cela, une loi de prolongation sera présentée le 13 octobre en Conseil des ministres.
Conseil de défense à 9h, suivi du Conseil des ministres, durant lequel le gouvernement présente le dernier budget du quinquennat. À 7 mois de l'élection présidentielle, c'est le jeu. Les dépenses de l'État s'envolent, avant sans doute d'être rectifiées après les élections. Le ministre de l'économie avait annoncé en juillet une hausse des dépenses de 11 milliards d'euros. Depuis, les annonces pleuvent, des écoles de Marseille au plan pour les indépendants, en passant par MaPrimeRénov' et le Beauvau de la sécurité. Et c'est sans compter les 30 milliards du plan d'investissement et les 2 milliards du revenu d'engagement pour les jeunes. Ce qui fait évidemment tousser le président Les Républicains de la Commission des Finances de l'Assemblée, Éric Woerth.
Les prémices, l'antichambre de l'élection présidentielle, ça peut pas être un concours de démagogie sur le dos des finances des Français. J'ai l'impression qu'il y a un interdit qui a sauté avec la crise sur, au fond, la contrainte financière. Alors parfois, c'est des annonces qui coûtent pas très cher. Quand on permet aux femmes d'avoir un traitement gratuit de contraception, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Donc c'est pas le sujet par rapport, évidemment, à la légitimité de la chose. Quand c'est des sujets qui sont pérennes, c'est-à-dire qui vont durer dans le temps, qui dépassent de plusieurs centaines de millions d'euros. Si les taux augmentent d'un point à un moment donné, il y aura une panique. Le gouvernement devrait plus insister sur la situation financière du pays et dire comment il considère qu'on doit revenir à des niveaux acceptables, raisonnables d'endettement qui nous laissent au fond une liberté financière. C'est notre liberté financière qui est en jeu.
Le député LR Éric Woerth avec Maxence Lambrecq. Le gouvernement se défend de tout dérapage. Il compte sur de meilleures recettes grâce à une croissance qui reprend après la crise du Covid. Crise qui se fait toujours sentir jusque dans nos activités quotidiennes. Alors que les associations reprennent du service en ce mois de septembre, les chorales amateurs sont à la peine. Parmi les premières activités impactées à cause de la propagation du virus, alors Delphine Evenou, la rentrée est encore compliquée pour les 3,5 millions de passionnés de chant.
Dans cette salle parisienne, comme partout en France, on s'éclaircit la voix, on donne le la. Patrick retrouve son groupe après avoir un peu lâché l'an dernier.
C'était difficile d'être obligé de faire des zooms pour chanter. C'était trop ressemblant au bureau, quoi.
Mais en cette rentrée, pour la chef de chœur Valérie Sion, il n'y a pas de bémol.
La perte d'adhérents, c'était les 2 ans passés. On a perdu 2/3 des adhérents. Perte éventuellement de convention aussi, avec par exemple le contrat qu'on avait avec les retraités. Mais ça repart très bien.
Dans d'autres formations, en revanche, les confinements et contraintes sanitaires ont eu raison de certaines voix. Martine Hich, présidente de la chorale Les Brières à Clamart, vient de passer en revue ses troupes.
Elles sont décimées, dirons-nous. De 75 avant l'épidémie, on se retrouve à une 30aine maintenant.
Autant de cotisations en moins.
Il faut quand même qu'on paye le chef de chœur. Plus on a de temps en temps une pianiste qui vient pour des répétitions et qui accompagne les concerts.
Autre casse-tête, les salles de répétition, désormais réglementées. Comme Ferrand Cooper est le directeur du réseau À Cœur Joie, qui fédère 300 chorales.
Dans une grande partie des espaces, dans les villes, dans les campagnes, il n'y a pas toujours des salles qui ont à la fois la dimension et les capacités de renouvellement d'air qui sont vraiment importantes pour garantir la sécurité des pratiquants du chant choral.
Des pratiquants qui, pour chanter, doivent présenter un pass sanitaire.
La pandémie de coronavirus qui accompagne aussi la fin de campagne en Allemagne. Élections législatives dimanche. Pour refaire son retard sur le social-démocrate, Armin Laschet s'est affiché aux côtés de la chancelière sortante hier soir à Stralsund, la terre d'élection d'Angela Merkel depuis plus de 30 ans, suivi par notre correspondant permanent en Allemagne, Ludovic Piétonu.
Il pleut des cordes et à part quelques fidèles, les électeurs ont boudé la fête, remplacés par un comité d'accueil haineux et complotiste. On trouve des opposants à la vaccination qui portent une étoile jaune parce qu'ils s'estiment discriminés, aux côtés de militants d'extrême droite dont le slogan n'a pas changé depuis des années. Merkel doit partir. Imperturbable, Angela Merkel mène son opération de sauvetage en 10 minutes chrono, face aux caméras nombreuses. Elle appelle les Allemands à faire le choix de la raison. Le candidat lâche ses coups.
Je dis à tous ceux qui sifflent et crient là-bas, quiconque affirme qu'il n'y a pas de pandémie doit se rendre dans les unités de soins intensifs.
Et alors qu'étonnamment, Merkel n'en avait pas dit un mot, Laschet rappelle le dernier fait intervenu dans cette campagne, ce meurtre d'un étudiant de 20 ans, employé d'une station-service, abattu par un client qui refusait de porter le masque.
Nous ne voulons pas de cette violence dans notre pays. Nous condamnons cette agression. Il faut que ça cesse.
Il dit ça avec les poings serrés, la mine grave, mais la foule est sourde. Angela Merkel disparaît sous les huées avec un bouquet de fleurs. Stralsund, Ludovic Piétonu, France Inter.
Concernant les vaccins, sommet mondial prévu aujourd'hui, le président américain promet des engagements pour les pays les plus pauvres. Sur près de 6 milliards de doses administrées, seuls 0,3% l'ont été dans des pays à faible revenu, dénonce aujourd'hui Amnesty International. L'ONG accuse les groupes pharmaceutiques d'avoir bénéficié de financements publics, mais d'avoir bloqué les transferts de technologies pour permettre la fabrication des vaccins partout dans le monde. À l'étranger encore, la France aurait-elle convaincu ses partenaires européens de lui emboîter le pas pour marquer le coup dans l'affaire des sous-marins? Une réunion américano-européenne prévue la semaine prochaine à Pittsburgh pourrait être sur la sellette. Et puis aujourd'hui à l'ONU, Joe Biden et Jean-Yves Le Drian se retrouveront ce soir avec les membres du Conseil de sécurité, mais pas de tête-à-tête prévu. Les marchés financiers pas vraiment rassurés, mais tout de même, le géant chinois de l'immobilier Evergrande, menacé de faillite, annonce qu'il va payer des intérêts sur une petite partie de ses 260 milliards d'euros de dettes. Tous les regards sont désormais tournés vers le gouvernement chinois. Va-t-il le renflouer ?
Il est 7h09 au procès des attentats du 13 novembre. Un témoignage rare, recueilli par France Inter.
Le témoignage d'un policier entré le premier dans le Bataclan avant 22h, alors que le massacre venait de commencer. Ce brigadier a accompagner le commissaire de police qui sera appelé à la barre tout à l'heure. Ensemble, ils ont tué un premier terroriste et mis fin à la tuerie de masse. Ce brigadier s'est confié à Sophie Parmentier sous couvert d'anonymat.
Nous l'appellerons Greg. Il était brigadier à la BAC Nuit de Paris, la BAC 75N. Le 13 novembre 2015, Greg est arrivé avec son commissaire devant le Bataclan à 21h52, 5 minutes après le début de l'attaque terroriste. Sur le trottoir, ils voient des corps, ils entendent les rafales de Kalachnikov et croisent les premiers rescapés tétanisés.
Les portes s'ouvrent d'un coup et là on a une vingtaine de spectateurs qui sortent précipitamment et qui nous disent « il y a encore du monde dedans, il y a encore du monde dedans et faut y aller ». On se regarde avec le patron, puis bon, bah, on se parle pas parce que bon, on se connaît bien. On se fait un signe de tête et puis on y va. Et là, on rentre dans le Bataclan. Donc là, bon, bah, on a des corps sur 2-3 étages de corps, en fait. C'est impressionnant. Et on voit un terroriste qui est sur la scène du Bataclan, qui est en train de mettre en joue une victime, un spectateur. Donc on se positionne, le patron se met à ma gauche, moi je me mets à sa droite, il tire 4 fois. Moi je tire 2 fois, et en fait on tire jusqu'à ce que le terroriste tombe, et à ce moment-là ça explose.
C'est la ceinture du kamikaze qui explose, au balcon les 2 autres terroristes ripostent et Greg doit se replier. Il entre à nouveau dans le Bataclan après avoir envoyé un « je t'aime » à sa femme, puis pendant des heures, il évacue des blessés. Les survivants le considèrent aujourd'hui comme un héros.
Le policier de la BAC, arrivé le premier au Bataclan, c'est aussi à lire sur franceinter.fr. Au 10e jour du procès, la Cour entendra aussi l'ex-patron de la BRI qui a donné l'assaut final au Bataclan. Pas de bus ce matin dans l'agglomération de Metz. Les chauffeurs exercent leur droit de retrait après l'agression d'un conducteur hier. Selon France Bleu Lorraine-Nord, un chauffeur a été frappé au visage par un usager qui lui reprochait un coup de frein brutal. 3 fois le prix de départ et des retards de chantier inacceptables. La SNCF jette l'éponge sur le projet controversé de transformation de la gare du Nord à Paris. 700 000 voyageurs y passent chaque jour. Un coût prévisionnel des travaux monté à 1,5 milliard d'euros contre 500 millions à l'origine. D'autant qu'il n'aurait même pas été prêt pour les JO de 2024. Voilà en revanche un projet qui vient d'aboutir et qui vise les JO de Paris. L'inauguration hier soir de la première maison de la performance. Un pôle d'excellence pour les sportifs au sein du Krebs de Châtenay-Malabry en Ile-de-France. Objectif uni clairé, mieux accompagner les athlètes pour gagner plus de médailles aux JO dans 3 ans.
Et même beaucoup plus, selon Emmanuel Macron. Objectif partagé par la fleurettiste Astrid Guyard, médaillée d'argent par équipe à Tokyo et représentante des athlètes au Comité National Olympique.
La fête à Paris ne sera réussie que si les athlètes français performent.
Pour optimiser les chances de médailles, il y aura donc ces maisons de la performance, sorte d'incubateur du haut niveau. Le gros changement, c'est le suivi individuel de chaque athlète par des coachs, des médecins et puis des référents socio-professionnels.
Se donner ce coup de pouce, aller chercher les gains marginaux qui leur permettra de passer peut-être de la place de 4e à la médaille d'or, donc ça c'est très important.
Mais n'est-ce pas déjà trop tard à moins de 3 ans des Jeux de Paris? Si, un peu, reconnaît Claude Onesta, chargé de la haute performance à l'Agence Nationale du Sport.
Il va nous manquer un peu de temps pour pouvoir mener à bien toutes ces transformations, mais bon, pour autant on va essayer d'aller chercher le meilleur. Et puis, Paris n'est pas une finalité absolue. Il y aura dès le lendemain de Paris le chemin vers Los Angeles.
L'ancien coach des handballeurs français sait que viser le top 5 des nations olympiques est un défi corsé d'ici 2024. Et il ajoute rieur, si c'était facile, on y serait déjà.
Et avant 2024, il y a 2023 Coupe du Monde de football. Les Françaises se sont imposées hier en match de qualification 3-2 en Slovénie et prennent la tête de leur groupe.
Merci Anaïs Feuga. Le zoom dans 3 minutes. Aujourd'hui, quand la justice s'écoute à domicile.